Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine et ce matin des conseils et des recettes pour bien cuisiner les champignons en compagnie de Daniel Jerkens de Elle à table et de notre chef Angèle Ferremag. La journaliste Christy Lapelle-Edouel nous proposera deux livres bienfaisants pour ce week-end et la journaliste Sandrine Mercier vous proposera deux destinations à quelques semaines des vacances de la Toussaint. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui avez-vous choisi cette semaine ?
Eh bien, une femme qui mérite également toute notre admiration. J'ai nommé Loïs, la mère de Malcolm, parce que chez elle, la charge mentale prend vraiment une dimension explosive.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vouvoie pendant sa chronique sexe. Il sera question de champignons, je crains
oui,
le pire.
Oui, et tu as raison. Je me suis tout de suite dit, thématique champignons, on y va pour la sexualité. Je vous laisse deviner de quoi je vais parler.
Oui, on a 45 minutes pour
y
réfléchir.
Alors là, on ne voit pas.
On a une pensée pour notre ami Thibaut de Saint-Maurice, souffrant ce matin. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 ou en laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef de la guinguette d'Angèle à Paris et l'auteur de Bons, Simples et Sains chez Marabout. Alors la semaine dernière, j'ai essayé votre sponge cake au citron et à la vapeur, c'était absolument délicieux. Et quelle est la recette à partager pour se régaler ce week-end ? Ça sent déjà très bon en studio.
Ali, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plein de choses, mais je vous ai apporté un risotto aux trompettes de la mort,
oh là là.
Séché, parce qu'en fait on n'a pas tous accès à la campagne, à la forêt, à la cueillette. Donc je voulais vous raconter aussi comment on fait un super risotto avec des champignons séchés qu'on trouve dans un supermarché.
À tout à l'heure. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali.
Vous êtes la rédactrice en chef de l'excellente revue de voyage AR. AR non pas comme Ali Rébéi, mais comme aller-retour. Des idées tout à l'heure pour les vacances de la Toussaint.
Oui, on ira côté Malte, dans la nature. En France aussi, on a des idées dans Lyon pour flâner entre canaux et châteaux. Il y a là le seul château pentagonal parfait. 5 côtés, c'est unique au monde et c'est dans le magazine AR. Et comme on parle aussi de bonne bouffe ce matin, on a la meilleure pogne du monde à Saint-Donat, chez Ronja, avec un petit parfum de fleurs d'oranger. Ça, c'est entre Ardèche et Ermitage.
Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour.
Directrice des rédactions d'Elle à table, d'Elle décoration, d'Art et décoration, du podcast culinaire Elle sa table. Quoi d'autre ?
Pour l'instant, rien, mais ça ne saurait tarder.
Et à la une d'Elle à table, ce mois-ci, les champignons nous étonnent. Je fonds de plaisir déjà à la vue de la couverture, avec cette crème brûlée aux champignons de Paris.
Hein. Oui, parce qu'on peut faire des choses assez étonnantes avec les champignons. Souvent, c'est vrai qu'on les cuisine de manière assez classique, en les faisant sauter à la poêle, etc. Mais en fait, le champignon, c'est vraiment... alors moi, j'appelle ça les soutiers de la cuisine, ça nous aide à tout. Ça a une saveur extraordinaire umami, donc c'est très... ça ouvre l'appétit. Et on peut en faire des tas de choses, c'est-à-dire on peut les garder entiers, on peut les glisser dans des recettes, voilà.
Bon, à tout à l'heure, ma chère Danielle. Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble, dans certains milieux spécialisés. Et qui aurait pu jouer dans un épisode de Downton Abbey. Je vous vois très bien. Co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse, consacrée à la puissance des liens, et qui vient de sortir en poche chez Pocket. Alors Christina, on commence avec vous. Vous avez choisi pour ce week-end le livre d'une jeune peintre vénézuélienne, Rosa Maria Unda Suki, j'espère que je prononce bien. Ça s'appelle « Ce que Frida m'a donné » et c'est publié chez Zulma.
Et c'est un livre magnifique, magnifique. Alors Rosa Maria Unda Suki est partie du Venezuela, elle a passé son enfance au Venezuela, sa mère est brésilienne, donc elle est vraiment, c'est vraiment une sud-américaine qui vit maintenant à Paris. Et pendant 5 ans, elle a été, happée, elle a plongé complètement dans l'univers de Frida Kahlo. Alors vous allez me dire, ah non, encore Frida Kahlo, on n'en peut plus de Frida Kahlo, sur des tailles crayons, des coussins, des t-shirts, des sacs, des chaussures, au secours Frida Kahlo. Sauf que, c'est évidemment, vous en doutez bien, pas du tout ça, elle s'est vraiment plongée, complètement immergée dans cet univers qui est... qui a aussi un lien avec le sien. Et surtout, elle a passé beaucoup de temps dans la maison de Frida Kahlo à Mexico. Et elle a dessiné et peint absolument toutes les pièces de la maison, en les reliant à de nombreux épisodes de la vie de Frida Kahlo. Et donc, elle s'est inspirée de cet univers. Évidemment, les deux sud-américaines se rejoignent, hein, vous vous en doutez. Donc, il y a la couleur, il y a l'inspiration du rythme. Et elle est venue en France parce qu'on lui a demandé de faire une exposition. Elle est venue en France, donc, en résidence, il y a déjà quelques années, avec toutes ses œuvres dans ses bagages. Et elle raconte dans ce livre à la fois, alors c'est une espèce d'emboîtement, sont des poupées gigognes, elle raconte à la fois ce qu'elle a vécu pendant ces 3 mois de résidence d'artiste à Paris pendant qu'elle préparait cette exposition, donc sa vie quotidienne, ses inquiétudes, ses angoisses, sa relation avec les galeristes, etc. Et puis elle se replonge dans l'univers de Frida Kahlo et elle parle aussi de la manière dont l'univers de Frida Kahlo répond au sien et à l'évocation de sa fameuse maison d'enfance au Venezuela auprès d'un père extrêmement aimée, et elle évoque aussi en creux la situation politique et économique du Venezuela. Autant vous dire que ce livre, qui ne semble pas très épais, est d'une richesse vraiment absolument remarquable, et il est illustré par ces merveilleux, merveilleux tableaux de Rosa Maria Undasuki. Et chaque tableau est donc la représentation d'une pièce de la maison. Et elle entoure, alors ce sont des tableaux qui peuvent sembler un peu, comment dire, naïfs, hein. On dirait que c'est de l'art naïf. Or, en réalité, évidemment, pas du tout, c'est pas du tout naïf. C'est tout sauf naïf. C'est l'évocation de la vie de Frida Kahlo et chaque pièce raconte une chose d'une manière symbolique. Alors, par exemple, il y a des traces de pas. Les pièces sont vides, mais en réalité, elles sont habitées, bien sûr. Une trace de pas, un oiseau sur la fenêtre, des plumes sur les murs. Évidemment, choses qui viennent de sa propre inspiration d'artiste à elle. Ce livre, c'est un enchantement du début à la fin. Chaque page est intéressante. On a envie de regarder tous les détails. Les couleurs sont éblouissantes. Je vous en montre juste un. Alors évidemment,
on est à la radio.
Ça vous dit pas grand chose, mais il y a le dessin de la chambre. La peinture, le tableau de la chambre de Frida, avec ce bleu extraordinaire, ce bleu vibrant, le lit au milieu et pendant du haut du lit, un squelette. Alors ça pourrait sembler terriblement morbide, etc. En réalité, ça ne l'est pas, ou ça l'est, selon le point de vue où vous vous placerez, puisque c'est évidemment l'évocation de l'état physique terrible de Frida Kahlo, qui a vécu la plus grande partie de sa vie paralysée, allongée, qui a subi moult opérations, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Et ça évoque évidemment pour le Mexique aussi cette chose très importante qui est le moment de la fête des morts, où tous les gens dans la rue croquent des têtes de mort et en sucre et portent des petits squelettes. Cette puissance d'évocation qu'elle a dans des images, des représentations très très douces. C'est vraiment très surprenant. C'est une espèce de choc. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de nouveau... Alors, il y a eu une exposition de Rosa Maria Undasuki. Je fais un appel, là, aujourd'hui, aux galeries. S'il vous plaît, faites-nous une nouvelle exposition. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous aimeraient la découvrir. J'aimerais savoir aussi quel est son travail actuel, ce que je ne sais pas. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de Rosa Maria Undasuki si j'en ai de nouveau. Mais vraiment, alors un petit mot sur le travail remarquable de l'éditeur.
Zulma.
Je fais une déclaration d'amour aux éditions Zulma, qui ont toujours un talent, alors une attention à la qualité du papier, à la qualité de la maquette, à la qualité de la mise en page, à la qualité de la reproduction. Alors en particulier là, hein, la couleur est absolument omniprésente, donc il faut vraiment techniquement être au plus près. C'est d'une beauté, c'est un travail artisanal. La couverture est superbe avec ce patchwork de tous les tableaux de Rosa Maria. C'est remarquable. Alors donc, chapeau, parce que Zulma est une petite maison d'édition et qui mérite d'être célébrée et encouragée et soutenue, évidemment.
Guillemette Odissino, vous êtes en train de de feuilleter livre de Rosa Maria Undasuki.
Oui, je suis fascinée. Et les toiles, enfin les dessins donc de Rosa Maria, il y a des moments, on a l'impression que c'est comme des poupées russes. C'est-à-dire on rentre dedans. Oui. On a l'impression qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs thématiques. Il y a quelque chose qui a l'air assez enfantin, puis tout d'un coup, effectivement, on découvre un morceau de mort dans un coin. Enfin, c'est très très impressionnant.
Ah, mais c'est un univers vraiment très particulier et fascinant.
Ce que Frida m'a donné, c'est signé Rosa Maria Undasuki, Suki S-O-U-K-I, et c'est publié chez Zulma. Elle vous a manqué la semaine dernière, Guillemette Odissino.
Elle est marquée aussi.
Elle est là. Oui, elle nous a marqué par son absence. Elle trépigne. C'est l'heure de l'ami du vendredi.
Ah bon, je trépigne.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger. Et
évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui va devenir notre ami ce vendredi?
Écoutez, Ali... C'est Loïs. Et je prononce ça avec énormément de respect. De toute façon, si je n'ai pas assez de respect, elle va m'enfermer, dans la cave. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que j'aime, entre autres, chez mes amis, c'est quand elle me déculpabilise. Quand elle commande un apéro, alors qu'il n'est que 11h du mat, en disant, il doit bien être midi quelque part. Ou que je les entends répondre au téléphone à leurs enfants « Écoute, débrouille-toi, t'as qu'à faire la manche pour acheter ton goûter, je ne peux rien faire pour toi, on m'attend pour ma séance de massage. » Alors dans ce registre, je vais vous présenter donc mon idole. Loïs, la mère de Malcolm, dans la série culte de 7 saisons du même titre, ce sitcom familial complètement dingue, hilarant et grinçant, ou un peu à la manière des Simpsons mais en image réelle, la famille sert de miroir très grossissant à tout ce qui cloche aux États-Unis. Et alors, de cette cellule familiale, Loïs est le noyau dur. Et pourtant, sa vie respire le burn-out, hein, puisqu'elle cumule sa vie d'épouse de Hal, alors un type complètement immature, de mère de famille de 4, puis 5 enfants, enfin 5 garçons, incontrôlable, et un pénible travail de caissière dans un supermarché avec évidemment des supérieurs machos. Loïs est l'incarnation explosive de la charge mentale.
Bon, alors, j'ai fait une marque sur toutes les bouteilles d'alcool pour noter le niveau. J'ai mis un code sur les chaînes porno de la télé, j'ai compté les cigares de votre père. J'ai relevé les kilomètres sur la voiture, je sais exactement combien il y a sur les comptes en banque. On vous aime, on vous embrasse. Et une fois par semaine, je ne ferai plus le dîner.
Absolument, oui, d'accord, super.
Pas de problème. Et je veux que le linge sale soit dans la panière, et non pas à côté, et non pas sur l'abat-jour, et non pas en boule sous un matelas. Bon, on doit pouvoir y arriver.
Mais tu as préparé le goûter des enfants?
Non, pas encore.
Al, je te demande pas grand-chose. Je peux pas toujours tout faire, tu comprends?
Écoute, ma chérie, il faudra toujours que tu nous dises ce qu'on doit faire.
Eh oui, parce que de toute la masculinité qui l'entoure, Loïs est le commandant en chef, l'autorité suprême. Sa charge mentale, elle la métamorphose en super-pouvoir, en bombe à fragmentation, avec une qualité d'une merveilleuse modernité. Elle se fiche complètement d'avoir l'air gentille. Moi, la mère si conciliante et laxiste, capable de ressortir en pyjama à minuit pour acheter du ketchup, parce que mon fils de 20 ans n'a plus de sauce pour tremper ses frites. Moi qui n'ai toujours pas réussi à découvrir au bout de 10 ans qui avait initié la bataille de pâtes à la carbonara dans le salon. Je suis à genoux d'admiration devant cette femme de poigne capable d'imposer la discipline. Alors, exemple de ses méthodes, dès l'épisode 2 de la saison 1, qui d'ailleurs porte bien son nom, Alerte Rouge, c'est son anniversaire avec Al, son grand bonnet de mari. Et au moment de s'habiller, elle découvre sa robe rouge brûlée dans les toilettes. Oubliant que son mec l'attend au restaurant, elle met en place un interrogatoire à faire frémir les cadors de la CIA et du FBI confondus à base de torture psychologique et physique pour trouver le coupable parmi ses fils. Alors elle leur fait écouter en boucle des chansons enfantines hyper crispantes. Elle les force à tourner en rond très longtemps autour d'une batte de baseball ou carrément elle maintient leur tête sous le canapé. Alors à distance, le fils aîné qui est pensionnaire d'une école militaire tente de coacher ses frères pour les aider à résister. Mais on apprendra que même l'armée américaine admire Loïs et aimerait s'inspirer de ses méthodes disciplinaires.
Alors Guillemette, même si elle leur fait peur, Malcolm et ses frères adorent leur mère.
Mais bien sûr, puisqu'elle est leur pilier psychologique et moral, et qu'ils savent qu'elle est également capable de tout pour les défendre. Elle peut même obtenir des secrets défense, si si, pour aller chercher l'un de ses fils devenu soldat malgré lui, au fin fond du Pakistan. Alors Malcolm, le surdoué de la famille, résume parfaitement l'omnipotence de Loïs. J'ai beaucoup réfléchi à propos de Dieu. Sur lui, je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que Dieu est tout-puissant, qu'il sait tout et qu'il voit tout. Bah, en fait, comme maman, mais en invisible. Donc, il vaut mieux être son ami que son ennemi. Alors justement, mon amie Loïs, donc, n'a peur de rien. Mais surtout, elle n'a honte de rien. Aucune honte de faire souvent du scandale, car d'après elle, on ne peut rien obtenir de juste dans ce monde injuste si on ne frappe pas plus fort que ceux qui nous abusent. Et aucune honte, bien au contraire, de ses origines prolétaires. Voilà d'ailleurs son conseil à Malcolm, quand le petit génie part étudier à Harvard, tout en bossant comme concierge. Tu sais ce que c'est que d'être pauvre, et tu sais aussi ce que c'est que travailler dur. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que de balayer par terre et bouger ton cul, et en faire deux fois plus que tous ceux qui t'entourent. Et ça ne servira à rien, parce qu'ils te regarderont toujours de haut. Et toi, tu espéreras qu'ils t'apprécient tous, mais ça ne sera pas le cas. Et ça te brisera le cœur. Et ça te permettra d'avoir un cœur gros comme ça, et d'ouvrir les yeux. Alors là, pardon, après ça, Loïs, c'est la classe. C'est la classe, la grande classe sociale.
Et Malcolm, c'est à voir sur la plateforme Salto, c'est ça ?
Oui, oui, Salto, et puis c'est en rediffusion à droite, à gauche, hein, chercher. Et puis même, franchement, ça peut s'acheter en coffret, parce qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, votre famille va devenir accro.
Et je suis un grand fan du père Hal, interprété par le génial Bryan Cranston, qui est absolument dingue. Angèle, vous adorez
Moi,
Malcolm,
c'est Dewey, le petit frère que j'adore, qui a l'air innocent, qui est très bizarre comme tous et qui est extraordinaire et auquel je m'identifie.
En fait, on a tous notre chouchou dans ce truc.
L'ami du vendredi, c'est la chronique ciné Guillemette Odissino, à réécouter, podcaster, partager sur le site et l'appli de France Inter. Tout au long de la semaine, Grand Main Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Jalaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan, avec à la technique cette semaine Clément Vuillet et Adèle Caglar. Valentine Chedebois a assuré la programmation musicale. Et c'est une première sur France Inter. On écoute le tout nouveau titre d'Adèle, Easy On Me, wow, extrait du nouvel album 30, qui sort le 19 novembre. There ain't no gold in this river that I've been washing. Didn't get the chance. quelle chance d'écouter le tout nouveau titre d'Adèle, Easy On Me, extrait du nouvel album 30 qui sort le 19 novembre.
Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Il y a la Pagos, les allées houssiennes. Je leur en fous, moi, les voyages.
Sur France Inter.
10h28 et ce matin, grand bien vous fasse loisir. Départ immédiat en attendant les vacances de la Toussaint.
Malte se décline en deux couleurs, l'ocre jaune et le vert. Les signes d'un climat implacable qui dicte sa loi. Les rares animaux présents sur l'île se sont adaptés ou luttent pour leur survie. On y découvre aussi des rivages romantiques et des villes baroques. L'île de Malte est située au sud de la Sicile. Elle a une superficie de 316 km², soit trois fois la taille de Paris. Selon l'ONU, c'est le pays disposant des plus faibles ressources en eau de la planète. Il y a des marais salants le long de la côte et des champs à la terre aride. C'est l'automne à Malte, mais la chaleur est écrasante. Et c'est la saison des tempêtes. Les plantes qui ont réussi à s'acclimater révèlent un florilège de formes.
Extrait d'un documentaire diffusé sur Arte, l'Europe dans tous ses petits états. Sandrine Mercier, on part donc à Malte, côté nature, pour les vacances de la Toussaint. Malte sans l'asphalte, des conseils ?
Température ce matin, j'ai regardé, 26 degrés. C'est,
ah ouais,
c'est,
ouais.
Ah, c'est pas mal, c'est vraiment la bonne saison
c'est un
pour aller.
Qui tape, ça.
Malte sans asphalte, effectivement, dans le dossier là de AR, on sera loin de La Valette, qui est plutôt une ville animée avec ses plages. Et le sauvage arrive vraiment à se défendre. Alors on l'entendait là dans l'extrait de documentaire, il y a effectivement une ancienne saline qui était déjà exploitée à l'époque romaine, qui se trouve au nord-est de l'île. Et on peut aujourd'hui, puisqu'ils ont, avant c'était un parking, maintenant ils ont fait une réserve à Gadira, donc ça permet vraiment de magnifiques balades avec les oiseaux migrateurs qui sont en train de faire un stop justement en ce moment entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, il y a à peu près 160 espèces d'oiseaux qu'on peut aller contempler en marchant au bord de l'eau. Sinon, pour rester avec les animaux, alors on a découvert que là-bas, les Maltais ont vraiment les courses hippiques dans le sang. Et le matin, quand vous vous baladez, vous pourrez voir comme ça des trotteurs qui roulent avec le sulky à l'arrière dans les rues ou sur les routes et qui s'entraînent. Et là-bas, on achète vraiment un cheval comme on achète une voiture d'occasion ici ou sur le Bon Coin. C'est vraiment une pratique, mais totalement démocratisée. Tout le monde a son cheval. Et alors, ce qui est marrant, c'est d'où viennent ces chevaux. Mais figurez-vous qu'ils viennent pour beaucoup de France. Ils ont couru à Vincennes ou à Chambord. Et au bout de 10 ans, ils n'ont plus. Ils sont considérés partir à la retraite.
Ils sont usés. Ils prennent leur retraite à Malte.
Donc, et ils passent leur retraite à Malte. Ils évitent le steak haché. Et,
quelle horreur, le steak de cheval.
Et ils se retrouvent à donc vraiment. Malte leur offre une seconde jeunesse et ils peuvent continuer donc de courir tous les samedis ou les dimanches. Et on peut assister tout au long de l'année donc à ces courses tout au long de l'année dans les îles Malte ou Gozo. Alors là, pour vivre la nature en grand, donc je vous conseille d'aller à Gozo, c'est l'île qui est juste en face. Et c'est celle qui fait la couve effectivement du magazine AR, vraiment avec des roches comme ça et des balades dans le sud. C'est très, il y a des falaises vraiment vertigineuses, on peut marcher comme ça. Et on a le bleu cobalt dans les yeux, on en a plein vraiment la tête. Et on peut marcher sur des arches suspendues. Enfin, vraiment, le paysage comme ça est très, très fort et très, très poignant. Et c'est aussi le paradis des plongeurs sous-marins. L'eau est très, très, très bleue, très claire. Il y a le Trou Bleu, d'ailleurs. C'est vraiment le site de plongée le plus célèbre de Gozo. Il est situé dans la baie de Djera. Et ce Trou Bleu, c'est une sorte de grande cheminée calcaire sculptée par l'érosion et qui débouche quand on plonge à l'intérieur sur des grottes de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et la descente est vraiment spectaculaire avec des jeux de lumière magiques. Et il y a aussi des épaves avec des bandes barracuda de mérou qui traînent par là. Donc voilà le côté nature. On peut trouver plein d'infos sur visitemalta.com. Il faut 2 doses de vaccin pour la Toussaint.
Malte à 2h30 de Paris. On peut trouver des Paris ou Lyon-Malte à partir de 70 €. Seconde destination pour la Toussaint, du côté de la Loire, Sandrine Mercier, à la découverte notamment d'étonnants musées. Hein.
Oui, j'étais pas dans la Touraine, comme croyait Christina quand j'ai dit je reviens de la Loire. Effectivement, j'étais vraiment dans le département de la Loire. Et la Loire coule effectivement tout du long du département. Et alors là, c'est vraiment un voyage dans le temps. J'ai découvert, mais alors des musées, vous allez voir, des musées insolites et très vivants qui ont vraiment, à partir de savoir-faire, qui ont vraiment marqué le territoire. Alors d'abord, Saint-Étienne. Je sais pas quelle image vous avez de Saint-Étienne.
La manufacture, bien sûr.
La manufacture.
Moi, c'était le foot.
Beaucoup de design aussi, il me semble.
Et beaucoup de design. Mais bah, figurez-vous que c'est à Saint-Étienne qu'est née la première bicyclette française. Elle est stéphanoise. C'était 1886. Ils ont copié, en fait, un modèle anglais qui est en train de faire le tour de France. En 3 semaines, ils ont sorti une bicyclette. Et du coup, ils ont, c'était vraiment la capitale française du vélo, via Manu France aussi. Et ils ont donc, dans le musée d'art et d'industrie, ils ont la plus grande collection de vélos de France. Il n'y a pas loin de 400 vélos. On voit ce vélo original. Le modèle est exposé au musée. Et on lit à l'époque, le vélo, c'est la liberté. Comme je suis venu en vélo aussi, hein, on est venu en vélo aussi, c'est vraiment la liberté.
Pas guillemette, hein, guillemette.
Non, ça c'est un musée. J'ai un peu l'impression d'aller voir des ovnis, mais ça m'intéresse. Hein.
Et alors à l'époque, le vélo, c'est la liberté parce qu'on n'a pas besoin de nourrir le cheval. C'est comme ça que c'est vendu. Et ici, quand je venais à vélo, je me disais, nous, c'est la liberté aussi. On n'est pas dans les embouteillages. On n'a pas besoin de nourrir le ventre de la voiture.
Maya, vous êtes tentée par le musée du vélo ?
Alors moi, je suis une nouvelle convertie au vélo à Paris et effectivement, c'est
bienvenue.
La liberté.
Donc ça, c'est le musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne avec cette collection de vélos. En deux, je vous emmène à Saint-Bonnet-le-Château. Alors Saint-Bonnet-le-Château, c'est la capitale de la boule. De la boule de pétanque, de la boule au foot.
Ouais, ça, oui,
ce n'est pas à Marseille.
J'ai cru que ma chronique allait partir tellement plus vite que d'habitude.
On t'a remplacé pour la chronique sexe.
Oui, on m'a pas dit.
Alors, la pétanque, c'est comme un soleil qui se pointe. C'est le plus gros producteur du monde, donc la boule au but. 2 millions sortent de l'usine chaque année. Et c'est dans cette petite ville de Saint-Bonnet-le-Château. Et donc, ils ont créé tout un circuit, un parcours musée, en fait, qui raconte toute cette aventure de la boule, comment on la fabrique. On peut même repartir avec 3 boules.
Une triplette, quoi.
C'est une triplette. Et on peut graver son nom dessus. Il y a même un resto avec des carrés pour jouer toute l'année. Et il y a même des stages organisés avec des pros pour vous perfectionner. Il y a des stages avec des pros. Donc ça, on est à Saint-Bonnet-le-Château, la boule au but. On continue dans le Pilat. Alors là, j'ai découvert... Regardez, tout le monde regarde ses chaussures. La maison des tresses et des lacets. Comment sont vos lacets ? Bon, vous avez des bottes, ça ne marche pas. Ali, qu'est-ce que tu as ?
Des baskets.
Ils sont comment tes lacets ? Ils sont plats ou tubulaires ?
Plats.
Plats. Guillemette.
Moi, je viens d'acheter aussi des plats, mais brodés, enfin, super bien, super joli.
Et ben c'est exactement ce que j'ai découvert dans cette usine, dans cette une ancienne usine de 1910. Ils ont réussi le miracle de garder telle qu'elle fonctionnait avec les machines en bois à tisser pour faire des lacets ou des tresses. Et tout a été gardé dans son jus. C'est un vrai miracle. Elle a 100 ans. Vous visitez cette maison, tout fonctionne comme à l'époque. Et là, j'ai découvert vraiment des lacets plats, des lacets tubulaires.
Ça me donne envie.
On comprend comment c'est tissé. Mais non, mais c'est passionnant. Et on peut customiser. Vous pouvez customiser vos baskets.
Mais c'est beau!
Parce qu'il y a des lacets de toutes les couleurs, tressés, avec
c'est
des
beau
couleurs.
D'acheter des lacets à part pour les changer sur ses baskets et tout. C'est beau!
Mais c'est exactement ce que j'ai découvert.
Moi, j'achète des paires de lacets à part.
On va en acheter pour Ali parce qu'il ricane.
Il ricane.
Mais on va le convertir.
À la maison des tresses et lacets, vous, dans le Pilat, tu auras tout ce que tu veux pour te différencier un peu avec tes pieds. On continue notre tour. On va à Chazelles-sur-Lyon. Alors là, on est dans les monts du Lyonnais. Vous allez ouvrir des yeux rond, grand comme ça. C'est la capitale du chapeau, mais de pas n'importe quel chapeau. C'est le chapeau de feutre en poil de lapin. Ah.
Le vrai chapeau auvergnat. C'est le chapeau auvergnat.
Ah non, c'est non. Le chapeau, c'est historique, c'était vraiment de la super qualité, c'était chic et cher. On voit même le chapeau que portait Antoine Pinet, c'était deux guerres.
Ce cher Antoine Pinet.
Entre deux guerres, tout le monde avait ce chapeau de Chazelles. Alors comment, il y avait jusqu'à 28 usines et la dernière usine a fermé en 97, donc c'est quoi, il y a plus de 20 ans. Hein. Mais pour pas perdre le savoir-faire, ils ont justement créé cet atelier musée et on peut voir comment un lapin devient un chapeau.
C'est vrai, sans magicien,
mais c'est fantastique parce qu'on se remet vraiment à l'époque, on raconte toute cette histoire Vous voulez savoir comment un
lapin de mer. Non, mais d'habitude, les lapins sortent des chapeaux.
Et bien là, on a un chapeau et une terrine.
Et là, c'est un chapeau qui sort d'un lapin.
Et bien en fait, tous les poils sont arrachés, bien sûr, de la peau. Et elles sont soufflées comme de la barbe à papa dans une machine. Les poils sont soufflés sur des cônes.
Les amis véganes, ça... vous écoutez.
Oui. Bonjour. Et ça crée des cloches. Ça s'appelle une cloche. Le chapeau, d'abord, se transforme en cloche. Et après, avec de la vapeur et toute une série de frottements, ça feutre et ça prend une forme sur un moule en bois. Et ça devient... un chapeau, on le tire, enfin, tout est fait à la main. Non, mais c'est... Moi, j'ai vraiment découvert tout un monde.
Du satin, il y a pas eu du satin à l'intérieur.
J'ai découvert
après,
à la fin, c'est fini. Quoi, avec
les chapeaux de nos grands-pères, ils étaient comme ça.
Angèle.
Mais alors, l'adhésion se fait uniquement par la vapeur et la pression.
Exactement.
C'est incroyable.
Vapeur, pression, ça feutre. Enfin, ça feutre. Et après, c'est posé sur des moules en bois. Et c'est vraiment tiré, et toujours avec de l'eau, enfin, de la vapeur chaude pour que ça puisse, pour qu'on puisse travailler cette matière de poils de lapin. Bon, à la fin, c'est poli, c'est lissé, c'est magnifique.
Un dernier musée, Sandrine Mercier.
Un dernier, lequel? Ah oui, non, je vais vous. Alors, encore un truc très, très original que j'ai découvert dans le Forez, la maison des grenadières à Servières. Est-ce que vous savez ce que c'était, ce savoir-faire de grenadière?
Non.
Alors là, vous avez l'air. Eh bien, j'ai découvert aussi. Alors, est-ce que c'était des brodeuses au fil d'or? Des grenadières, des écussons de militaires. Vous avez vu cette spécificité?
Ah, mais les grenadiers, ça vient de là?
Exactement. C'est-à-dire qu'elles tissaient.
C'est quand même de la niche de niche de niche. Hein.
Ah, c'est... Mais c'était à l'époque, pendant tout le 20e siècle,
ça raconte toute l'histoire de France. Là, tout ce que
on voit des petites grenades avec la flamme, la grenade qui explose, et c'est exactement ce qu'on trouve sur tous les uniformes de pompiers, de gendarmes, de militaires. Eh bien, il y avait un savoir-faire mondialement reconnu dans cette région du Forez. On avait jusqu'à 1200 grenadières donc, qui tissaient, mais on les retrouvait aussi dans les compagnies aériennes, hein, toutes Air France, les PTT, tout est brodé.
C'est fini,
alors, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y en a plus. La dernière, elle a 96 ans, elle ne travaille plus. Mais quand on va dans cette maison des grenadières à Servières, eh bien, on voit encore une brodeuse d'or et vous pouvez même vous essayer à cet art et peut-être que vous pourriez découvrir une nouvelle vocation.
Elle travaille encore.
Elle est là en démonstration. Quoi, là. Mais il y a encore un savoir-faire en France d'ailleurs, sur les coiffes de préfètes, vous savez, on fait encore voilà, toutes ces broderies. Enfin, c'est encore très utilisé dans les militaires.
Et
on prend du galon.
Ça revient tellement à la mode.
Mais c'est.
Il faut relancer la broderie au fil d'or.
Mais justement, l'association se bat parce qu'aujourd'hui, vous savez où c'est brodé sur les militaires
En Chine,
au Pakistan. Pakistan, voilà. Et ils se battent pour que ce savoir-faire revienne en France parce que maintenant, eh bien, ce serait mieux que nos impôts payent des brodeuses d'or en France plutôt qu'au Pakistan.
Sandrine Mercier, je vous ai un peu taquiné, mais en tout cas, vous m'avez vraiment donné envie d'aller dans la Loire. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations concernant ces musées insolites?
Alors, je retrouve parce que c'est Loire Story. .com, c'est le site de Loire Tourisme, on a toutes les informations sur tous ces musées, mais vraiment c'est des découvertes incroyables.
Sur internet, on retrouve toutes ces informations.
Toutes ces infos.
Merci Sandrine, merci, on part en forêt cueillir des champignons et surtout, on les déguste.
Bonjour Clément, ce sont des
croûtes au sel.
Des croûtes au sel, voilà, pour l'instant.
C'est très landais, vous savez, comme origine, très très landais. Ça peut faire ce que nous appelons aujourd'hui une entrée. Ou bien ça peut faire une excellente garniture de rôti.
Ah oui.
Une excellente garniture de, par exemple, de palombe, de gibier ou même d'une volaille. Voilà. Et puis alors je voudrais vous expliquer tout de même ce que je vous ai promis. C'est la façon d'éplucher les selles. Vous savez que nous ne les lavons pas. On les essuie d'une façon avec un linge très propre.
Ouais.
Et puis alors, par contre, alors on épluche les queues complètement.
Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les laver pour pas redonner
l'eau? D'abord, on redonne de l'eau. Et puis, enfin, il y a des parfums très subtils dans les champignons qui risquent d'être dissous. Alors, on doit les garder à coûte que coûte. Eh bien, voilà, Catherine. Voilà des têtes de cèpes qui sont très belles. Et voilà comment on fait les croûtes au cèpes. Je crois que c'est très simple. Et on peut le faire avec à peu près tous les champignons.
Chers amis, vous êtes peut-être à table, puisqu'il en est l'heure, ou à peu près. Je vous dis bon appétit et j'espère que vous ferez cette recette de Raymond, que nous remercions de nous l'avoir donnée.
Extrait d'Art et Magie de la Cuisine avec Raymond Oliver et Catherine Langer en 1965. Alors Daniel Jerkens, dans le dernier Elle à table, vous mettez les champignons à l'honneur avec des idées pour les accommoder avec audace et créativité.
Bah écoutez, merci. Oui, en effet, on a fait un dossier sur les champignons parce qu'ils nous semblent être parfaitement représentatifs de la saison. Et de ce dont on a envie pour le moment.
Alors vous les adorez, hein, ces champignons.
Alors moi, je les adore. Je les adore et je dois avouer que j'adore l'idée d'aller les cueillir, l'air est frais et vif. le sous-bois sent bon, on chasse les trésors, je suis très joueuse. Le seul problème, c'est qu'en fait, je suis pas du tout du matin, moi, en ce qui me concerne. Et donc, chaque réveil, pour moi, c'est une forme de petite mort. Et en règle générale, je vois le lever du soleil quand j'ai un avion à prendre. Voilà. Donc, alors, j'ai un mari qui, lui, se lève très tôt. Et donc, quand on va ensemble aux champignons, généralement, il est 11h. Et on voit des trous entre les feuilles. Et mon mari me dit, ben, regarde, là, il y avait des champignons. Et souvent, on repart avec un pauvre champignon dans le panier. Ceci dit, effectivement, il faut connaître les coins. Et d'ailleurs, j'avais un beau-père, paix à son âme, formidable, qui, quelques semaines avant de partir, nous a légué une carte de la forêt de Saint-Germain avec des carrés identifiés, trompette de la mort, cèpe, etc. On y va, mais généralement, on ne trouve rien parce qu'il est 11h.
Voilà. Alors, y a-t-il tant de champignons comestibles en France que ça,
oui.
Daniel
Jarkins? Bah oui, parce que la France a un terroir extraordinaire avec une variété incroyable de climat, etc. Donc, ça donne énormément de terroirs de champignons. Et puis, il y a une chose, c'est que là, en France, les forêts s'étendent. Donc, souvent, forêts, bois vont avec les champignons. On compte une trentaine d'espèces comestibles communes. Alors, les plus connues, évidemment, il y a les cèpes de Bordeaux, qui sont, en ce moment, on est en pleine saison. Il y a les cèpes d'été, le coprin chevelu, la girole, la chanterelle, la trompette de la mort, le pied bleu et le lactaire. Délicieux. Alors, c'est vrai que l'automne, c'est quand même la saison réputée comme la saison des champignons. Surtout quand, comme pour l'instant, on a une alternance de périodes de pluie et de journées où il fait relativement beau, sec et un peu de soleil, parce que ça les aide à sortir. Mais finalement, on trouve des champignons toute l'année. Alors peut-être pas en plein hiver, mais toute l'année, notamment au printemps, où il y a la morille, qui est quand même une merveille absolue.
Alors cueillir, c'est formidable, mais comment être sûr de ne pas se tromper?
Bah, je crois que c'est en fait c'est la vraie question, hein, c'est celle-là. Alors, il vaut mieux pas partir avec moi, parce que moi je suis spécialiste des champignons sur les étals des primeurs, plus que dans les forêts. Ceci étant, il y a des gens qui s'y connaissent très bien. Pour les gens qui ne s'y connaissent moins bien, alors il y a le truc à l'ancienne, je prends un guide papier avec des photos en couleur de préférence, c'est quand même mieux, et j'essaye de les reconnaître. Alors il y a plein de manières, hein. Il y a le pied, il y a le chapeau, il y a l'envers du chapeau, il y a le jus qui sort quand on le coupe. On coupe un champignon, on ne l'arrache pas, d'ailleurs on part avec un petit couteau. Après il y a, dans la version moderne, il y a les applications maintenant. Notamment, alors j'ai trouvé Picture Mushroom et Champignouf.
Champignouf.
Champignouf, oui, qui sont des applications, certaines payantes. Et en fait, vous faites une photo du champignon, ça scanne. Alors évidemment, il faut être connecté. On n'a pas toujours du réseau en forêt, mais voilà. Et puis après, il y a la meilleure des options qui est d'aller chez le pharmacien avec son panier et de le lui montrer. Parce que les pharmaciens ont tous des formations en mycologie. Et donc, eux vont scanner votre panier, vous dire ça oui, ça non.
Christine Lapelle-Edouelle.
Moi, j'utilise une application, mais il y a une règle d'or quand même quand on va en forêt, qu'on a un doute. D'abord, c'est de jamais mélanger des champignons qu'on connaît avec des champignons qu'on ne connaît pas. Jamais. Ensuite, ne jamais mettre les mains à la bouche quand on a touché un champignon, si on ne le connaît pas. Et puis, surtout, de ne prendre, si on a un doute, que ceux dont on est absolument certain. Et les autres, dans un papier journal, et effectivement, chez le pharmacien. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a de moins en moins, alors je vais peut-être me faire assassiner par les pharmaciens
vous
en
vous
France,
écrire, là.
Mais de moins en moins de pharmaciens qui soient vraiment très forts en mycologie. Et alors, il y a des associations un peu partout en France qui proposent des promenades en forêt pour reconnaître les champignons qui sont formidables, vraiment partout. Donc il suffit de chercher puis de faire une petite sortie ou deux. Mais vraiment la règle d'or, ce qu'on ne connaît pas, on ne le prend pas.
On ne joue pas à l'aventurier.
On ne le prend pas.
Daniel Jarkins, des conseils pour bien les préparer?
Alors un champignon, c'est assez fragile une fois que c'est cueilli, donc on ne le garde pas des jours et des jours dans le réfrigérateur. Hein. Généralement, et le mieux c'est de les faire. Le mieux, c'est de les faire dans les 24 heures. On essaye également de ne pas le conserver dans un sac plastique ou une boîte en plastique. Parce que
le panier, c'est mieux.
Voilà, il vaut mieux dans le panier. Ou éventuellement, si on les garde 24 heures, dans un torchon dans le bas du frigo. Alors, s'ils sont très très sales, on les rince très rapidement. Mais surtout, on ne les plonge pas dans l'eau parce qu'ils vont se gorger d'eau. Le mieux, c'est de les nettoyer avec un petit pinceau. Voilà. Alors pour ce qui est de la cuisson, il y a plein de manières de cuisiner les champignons. La plus facile, la plus usitée, c'est généralement de les faire sauter à la poêle. Dans ce cas-là, faites-le avec des petites quantités de champignons pour éviter de vous retrouver avec un truc qui devient à un moment donné qui dégorge à mort. Voilà. Et puis on en met partout, surtout.
Une astuce pour des recettes aux champignons ?
Alors, il y a un truc que beaucoup de chefs font en ce moment, qui sont les bouillons de champignons, qui permettent d'ouvrir l'appétit en début de repas, et c'est absolument merveilleux. Et puis sinon, moi, il y a un truc qui me rend complètement dingue, c'est le risotto aux champignons.
Ah ben, justement.
Voilà. Alors moi, j'ai un petit truc, je fais pas, vous allez voir, Angèle a une recette complètement dingue, on l'a mangée ce matin, c'était fou. Mais moi, souvent, je l'ai fait, et je rajoute une sorte de pesto d'herbe minute qu'on peut rajouter sur le risotto. Mais là, je transmets, car le meilleur du monde est celui d'Angèle.
Et ben justement, on retrouve tout de suite la recette d'Angèle Ferremag. Angèle, chef de la guinguette d'Angèle. Alors, votre recette de risotto ?
Alors, aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment on fait un risotto avec des champignons séchés, parce que c'est très frustrant cette période où on entend parler de cueillette, de forêt, d'air frais, et qu'on ne peut pas sortir ou qu'on ne s'y connaît pas du tout. Donc, moi, j'adore les risottos parce que déjà, c'est un plat qui fait un peu travailler, un peu chic, mais en fait, il peut être fait complètement avec les fonds de tiroir, les fonds de placard, donc c'est hyper simple. Alors, pour cette recette, je vais prendre un grand poireau, je vais couper très finement le blanc et je vais garder tout long le vert, parce qu'en fait, ça va faire mon bouillon, et je vais faire revenir le blanc dans du beurre ou de l'huile. Dans ma poêle un peu creuse. Je vais ajouter mon riz. Donc moi, j'aime bien mettre du riz carnaroli, mais en fait, on peut mettre le riz rond qu'on veut. On va laisser perler le riz. Pendant ce temps-là, je vais recouvrir généreusement de vin blanc sec si j'ai, et encore, c'est même pas obligatoire. Et pendant que le riz absorbe le vin et prend toutes les saveurs, je vais mixer, recouvrir d'eau bouillante mes champignons séchés. Donc là, aujourd'hui, je l'ai fait à la trompette de la mort. C'est pour ça que vous aviez un risotto un peu noir. Mais on peut faire évidemment avec des cèpes, des morilles, enfin tout ce qu'on veut sécher, tout ce qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Et on va mixer et recouvrir notre riz frémissant de ce précieux liquide plein de saveurs. Et c'est tout. Ensuite, on ajoutera ou du parmesan, ou de la crème, ou du beurre. Moi, j'aime bien, un petit peu comme les paella, laisser imbiber et pas trop mélanger. Je trouve que c'est meilleur, ça fait un petit peu croûté sur le côté et un petit peu plus fondant au milieu.
Daniel Gerkens ?
Bah, en fait, le risotto, c'est un plat extraordinaire. Tout le monde a l'impression que c'est hyper compliqué, qu'il faut passer des heures à tourner dedans, etc. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez tourner un peu dedans, vous pouvez pas tourner, vous pouvez tourner tout le temps, c'est comme vous voulez. Et c'est vraiment un truc, vous mettez n'importe quoi dedans. Mais c'est vrai que les champignons, c'est à peu près le must.
Ouais. Alors effectivement, on peut mettre n'importe quoi dedans, on peut se comporter n'importe comment avec. Après, la saveur du riz
résultat,
particulièrement, on n'est pas toujours sûr. Hein. Moi, il y a des fois, c'est, on dirait de la polenta, tellement c'est collé. Et il y a des fois, le riz croustille quand même douloureusement. Non, la cuisson, c'est pas fastoche.
En fait,
vous êtes des pros, hein, les filles, mais c'est pas fastoche.
Non, mais si on prend une poêle assez plate et qu'on recouvre pas plus de 3 fois, juste recouvrir, donc il n'y a pas de secret, pas de mesure à prendre, bah, ça marche. Ça suffit. Et j'aimerais
goûter,
bien vous parler, si j'ai le temps, d'un petit champignon qui s'appelle l'amanite des Césars. Alors, il est très peu connu. C'est un champignon, parce que Jules César en raffolait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'amanite des Césars. Il a dit que c'était le meilleur au monde. Ça ressemble à un jaune d'œuf. C'est assez exceptionnel. Enfin, un œuf entier, bien jaune. Ça se trouve souvent sur les voies romanes, parce que Jules César l'aimait tellement qu'il a demandé à ses équipes, à ses troupes, d'en semer dans le terrain à conquérir.
Et notre réalisatrice, Claire Destacan, valide totalement votre risotto. Hein, je la vois derrière la vitre, voilà, elle valide. Et on peut retrouver votre recette de risotto sur le site de France Inter, sur la page Facebook, ou sur, vous avez un site ou un compte Instagram ?
Oui, bien sûr, compte Instagram, La Guinguette d'Angèle.
La Guinguette d'Angèle. Et on peut retrouver votre dossier consacré aux champignons dans Elle à table, cher Daniel Gerkens.
Qui est toujours en kiosque.
Dans un instant, la chronique sexe. Je sais, c'est ringard, mais c'est devenu une habitude maintenant, de Maya Mazorette. Et en attendant, on écoute Lio Amoureux solitaire.
Un peu de beauté plastique pour effacer.
amoureux solitaire.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. On reste dans le monde des champignons, donc.
Oui, et là, c'est le moment où tout le monde pense que je vais parler de mycose.
Oui.
Mais non, bien sûr que non, car il est 10h54 du matin. Il y a peut-être des chanceux qui en sont encore au petit déjeuner, peut-être à base de risotto, comme nous tout ici. Donc, pas de mycose, promis. Je troque l'infectiologie contre la morphologie, l'étude des formes, en l'occurrence les formes du pénis. Car oui, le champignon est une forme documentée de pénis. C'est quand le gland est plus gros, voire beaucoup plus gros que la hampe, autrement dit, quand le bout est plus large que la base. Alors, cette expression de pénis champignon a le mérite d'être très imagée, mais moi je lui trouve deux gros défauts. Primo, une forme de champignon, ça veut rien dire, parce qu'entre une trompette de la mort, une truffe, un bolet, il n'y a aucun rapport.
Et une
deux yeux. Exactement. Et deux yeux.
Et champignon César aussi, là, en forme d'œuf.
Évidemment, les champignons nous donnent terriblement faim, on vient d'en parler. Or, à ma connaissance, on ne peut pas faire de sauce forestière en éminçant un pénis. Là, on rajoute un beaucoup d'échalotes. C'est assez peu documenté, en tout cas.
En tout cas, Maya, il faut que le pénis reste fonctionnel.
Oui, justement, parlons de fonction. Un pénis en forme de chanterelle ou d'amanite tu mouches, ce serait joli. Ce serait rigolo. Mais pour se reproduire ou même pour aller aux toilettes, il y aurait des petits embarras logistiques. Alors qu'avec la forme de champignon qu'on connaît, le pénis en forme de bolet, non seulement on fait pipi à peu près droit, ce qui est pas mal, mais il y a un avantage génétique considérable. En l'occurrence, plus la couronne du gland d'un homme est large, avec un petit retrait en dessous, plus le gland est à même de racler et d'évacuer le sperme déjà présent dans le vagin, au cas où notre chair étendre aurait forniqué durant les dernières heures avec un autre homme, avec des autres hommes. On ne juge pas, ça peut arriver. Je redis tout ça plus clairement. Le pénis champignon sert à éliminer ou limiter la concurrence génétique grâce à sa fonction de racloir.
C'est pas très glamour, hein, Maya.
Non, je sais.
Mi poète.
Voilà.
Mais c'est la nature, c'est comme ça. Et l'association naturelle entre pénis et champignon ne s'arrête pas là. Prenons par exemple le mot phallus. Il désigne pas seulement un organe, un symbole ou l'obsession personnelle des psychanalystes. Le phallus est un type de champignon basidiomycète, c'est-à-dire un champignon à chapeau, qui appartient à la famille des Phalaceae, laquelle regroupe une vingtaine d'espèces phalliques dotées d'une particularité remarquable, quoique décidément pas très glamour. Ils sentent très mauvais, d'où le nom commun de l'espèce type de phallus, le satyre puant, ou phallus impudicus, lequel dégage une odeur putride et qu'on surnomme... Tadam, l'œuf du diable.
Oula.
C'est joli, hein?
Comestible, cela dit.
C'est bon à savoir. Et cette association du pénis, du champignon et du diable existe aussi chez une autre espèce de champignon, le satyre élégant, que les Anglais appellent Devil's Dipstick, la jauge du diable. Alors, faut-il en déduire que le pénis est par essence démoniaque et que le sexe du mâle avec un circonflexe et le sexe du mâle sans circonflexe? Il est 10h56 du matin, je ne vais pas trancher la question du pénis, mais j'ai un petit bonus. En fait, là j'ai parlé du champignon, mais c'est juste une métaphore parmi d'autres. Rien qu'en restant au rayon des comestibles, j'aurais pu parler des asperges, des poireaux ou des aubergines. Mais n'oublions pas que les hommes ont droit aussi à des métaphores jolies et même des métaphores fleuries. On pense au pistil, évidemment, du latin pistillum qui signifie le pilon. On pense aussi à une fleur appelée le phallus de Titan, dont la tige s'élève jusqu'à 3 mètres de haut. Une fleur absolument immense, mais là on retombe toujours sur le même hic, une odeur de viande pourrie détectable à 800 mètres. Comme quoi, on peut pas tout avoir, les fleurs du mâle ont une odeur qui coupe l'appétit, c'est un comble quand même, mais bon, bonne cueillette quand même.
La chronique sexe de Maya Mazorette à partager sur l'appli et le site de France Inter. Merci à toutes, merci Sandrine, Guillemette, Christina, Angèle, Daniel, Maya. On se retrouve très bientôt dans Grand Bien Vous Fasse, Loisirs. Le coup de cœur de la semaine, c'était le témoignage très dense du romancier Grégoire Delacour, mercredi dans une émission consacrée à l'inceste. À podcaster si vous ne l'avez pas entendu. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian pour une émission consacrée au pouvoir de la musique. Et lundi dans Grand Main Vous Fasse, nous répondrons à toutes vos questions sur le cancer du sein. Vous pouvez intervenir et témoigner d'ores et déjà en laissant un message ou une note vocale sur l'appli France Inter.